the bend, my huckleberry friend, Moon River and me.
Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore et musicale les petites images qui bougent depuis largement plus d'un siècle maintenant, un siècle 30 ans, 27 semaines, 14 jours et 12 secondes si je compte bien, quelque chose comme ça, on peut toujours me contredire. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission à un homme qui fut un sexe symbole français des années 50-60, mais qui avait débuté au cinéma en 1939 et qui connut jusqu'à son décès en 2002, donc une vie relativement riche, eh bien, qui connut un grand succès. Et quand on voit la filmographie de Daniel Gélin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, eh bien, c'est absolument hallucinant le nombre de films, téléfilms, pièces de théâtre ou autres dans lesquels il est apparu. Daniel Gélin, donc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il est né le 19 mai 1921 à Angers, mais il passe son enfance à Saint-Malo et décide de devenir comédien tout en travaillant dans une pêcherie de morue, ce qui n'est quand même pas forcément facile, mais à l'époque, c'était sans doute plus facile de monter à Paris, à l'époque, c'était sans doute plus facile d'entrer au cours Simon, et à l'époque, c'était encore sans doute plus facile d'être dans la classe de Louis Jouvet, qui était quand même l'un des grands acteurs de théâtre et de cinéma des années 30, eh bien, toutes ces chances, Daniel Gélin ajouté à son talent, lui permirent eh bien, de débuter au cinéma en 1939 dans un film de Jean Boyer, qui fut un des grands réalisateurs des années 30, qui s'appelait Miquette et sa mère, et dès 1941, il rencontra un premier succès. Alors, il n'était pas dans les premiers rôles, mais dans Premier rendez-vous d'Henri Decoing, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il se faisait remarquer aux côtés d'autres débutants, notamment Jacqueline Desmarais, qui deviendra ensuite Sophie Desmarais, pardonnez-moi, et puis Georges Marchal, un acteur bien oublié, mais qui lui aussi fut un sexe symbole dans les années 60. 1941, ai-je besoin de le rappeler, nous sommes en pleine guerre pendant l'occupation. Les Français ont besoin de se changer les idées qui sont bien noires et bien sombres. Et en plus, les cinémas sont chauffés, ce n'était pas forcément le cas de leur maison ou appartement. Bref, Premier rendez-vous, un film d'Henri Decoing qui met en vedette Daniel Darieux, Louis Jourdan et Fernand Ledoux rencontre un succès absolument colossal, difficilement imaginable maintenant, même dans les périodes de restrictions. Il faut préciser aussi qu'à cette époque, Henri Decoing est le mari de Daniel Darieux, qui doit avoir la moitié de son âge, mais ce n'est pas grave. Et donc, on va écouter cette chère Daniel. Alors, je précise quand même, pour ceux qui suivent 24 notes secondes depuis longtemps, Daniel Darieux, elle est juste en dessous d'Audrey Burns, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il est impossible d'en dire du mal. Peut-être trouverez-vous sa voix un peu frêle, mais ne vous avisez pas de le dire dans 24 notes secondes.
Troublant, l'instant du premier rendez-vous. l'ombre solitaire, volant tout en enfer le mystère.
C'était Daniel Darieux, voire plus haut, qui interprétait une chanson de Louis Potera. Ça s'appelle « Premier rendez-vous ». Ça se chante dans un film d'Henri Decoin en 1941. Et « Premier rendez-vous », le film comme la chanson, comment vous dire, la chanson à côté d'Dancing Queen, ça a eu un succès d'estime, en fait, par rapport à la popularité que Daniel Darieux obtint dans ce film, à une époque où les gens avaient bien besoin de distraction, de rire, et puis aussi d'un ton de comédie à l'américaine, alors qu'évidemment, en 1941, vous vous en doutez, les films américains étaient complètement interdits sur les écrans français. Et donc, pour Daniel Gélin, eh bien, l'occasion de se mettre le pied à l'étrier et d'aligner dans les rôles qui, dans les années qui suivirent, pardonnez-moi, quelques films relativement estimables. On peut citer toujours pendant la période sombre L'Assassin habite au 21 d'Henri-Georges Clouzot, tourné en 1942. Mais c'est en 1949 qu'avec un film dont, hélas, je n'ai pas retrouvé la musique, sinon je vous le est volontiers proposé, un film de Jacques Becker qui s'appelle Rendez-vous de juillet. Et bien, c'est grâce à ce film que Daniel Gélin a connu devint une grande vedette du cinéma français et put ensuite enchaîner des rôles dans des films souvent beaucoup plus intéressants que ses premiers apprentissages. On citera entre autres La Ronde, cette merveille de Max Ophuls, tournée en 1950. On citera aussi, je l'ai perdu, Édouard et Caroline, voilà, c'est ça que je cherchais. Un film à nouveau de Jacques Becker et à nouveau un grand film de Max Ophuls, Le Plaisir, tourné en 1951. Ensuite, eh bien, à nouveau des collaborations avec Jacques Becker, avec Julien Duvivier, Henri Verneuil, Sacha Guitry, etc., etc. Et puis, alors là, c'est un peu le, entre guillemets, hein, le vilain petit canard, mais je pense qu'il aurait apprécié le compliment. On retrouve rien moins qu'Alfred Hitchcock, puisque Daniel Gélin fut du remake fait par Alfred Hitchcock en 1955 d'un film qu'il avait tourné en 1934 qui s'appelle L'homme qui en savait trop. Et à l'époque, eh bien, le rôle que tient dans la version 1955-1956 Daniel Gélin, eh bien, à l'époque, ce rôle avait été tenu par Pierre Fresnay. Le rôle est relativement court, puisqu'on voit Daniel Gélin dans le rôle d'un Français déguisé en arabe quelque part au Maroc et qui meurt en donnant au héros, interprété par James Stewart, est-il besoin de le préciser, qui lui donne un mot bizarre, Ambrose Chapelle, duquel, évidemment, va partir toute une intrigue qui trouvera son apothéose dans un concert avec un coup de cymbale. Je vous spolie pas le truc, mais ne vous divulgage pas le truc. Mais en tout cas, dans ce concert, on retrouvait à la baguette rien moins que Bernard Herrmann, le compositeur attitré d'Hitchcock dans ces années-là, et qui jouait, entre guillemets, qui jouait son propre rôle. Néanmoins, ce n'est pas un extrait de la bande originale de Bernard Herrmann qu'on va écouter, mais une chanson qui valut cette année-là à Doris Day, son interprète, et de la chanson et de la femme de James Stewart, qui lui valut l'Oscar de la meilleure chanson. Ben, vous allez forcément la reconnaître, cette chanson, dans 24 notes secondes.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Que sera, sera.
Ah ben ça c'est indémodable, que vous dire, un monument de la chanson mondiale, que sera, sera, et elle le chante Doris Day dans sa chambre d'hôtel, je la revois tout en dansant, et surtout, surtout, écoutez bien les paroles de que sera, sera, car c'est une leçon de vie que je vous résume, what will be, ce qui sera, sera, que sera, sera, the future is not ours to see, ce n'est pas à nous de voir le futur, retenez cette grande leçon donnée par une grande dame en l'espèce Doris Day dans un grand film, L'homme qui en savait trop, avec Daniel Gélin, notre héros de ce jour dans 24 notes secondes. Daniel Gélin qui faisait là une incursion américaine, mais à vrai dire, elles sont bien rares dans sa filmographie. Et quand je la feuillette, sa filmographie dans les années suivantes, elle est très très soutenue. 3, 4 films, parfois 5 films par an, même c'est essentiellement des films français, parfois quelques films italiens, puisque c'était la grande époque du cinéma, des collaborations franco-italiennes. Et il est assez étonnant et finalement confortant de voir que Daniel Gélin tournait tout à la fois avec des monstres sacrés du cinéma qu'on va dire d'avant, on le vit notamment dans le Austerlitz de Abel Gance en 1960, et de réalisateurs des années 60 et suivantes, qui sont ceux eh bien, de la nouvelle vague, ai-je besoin de le préciser, notamment Alexandre Astruc, pour lequel il joua La proie pour l'ombre, toujours en 60, Pierre Caste, bien oublié, La morte saison des amours, cette même année, Claude Chabrol, La ligne de démarcation en 1965. Bref, une sorte de capacité à mélanger à la fois des films un peu plus commerciaux et puis des œuvres peut-être un peu plus confidentielles, mais plus dans l'air du temps. Et en 1965, justement, eh bien, Daniel Gélin collabora au premier film de celui qui allait devenir un des grands réalisateurs des années 70, dans une veine assez différente de ce film-là. Le film s'appelle Compartiment Tueur, c'est un film de Costa Gavras, tourné en 1965 d'après un roman de Sébastien Japrison. Les rôles principaux y sont tenus par Simone Signoret et Yves Montand. Mais on y voit aussi Daniel Gélin dans un rôle pas très important, il faut le reconnaître. Et on va écouter avec d'autant plus de plaisir un extrait de la bande originale de ce film, qu'elle est signée d'un de nos chouchous français. Il s'appelle Michel Magne, dans 24 notes, seconde. Thank you. Ah ben ça dépote, on ne peut pas dire, mais j'adore. Michel Mann, c'était vraiment une signature très particulière de la musique de film français, avec une grande originalité, puisque l'homme a fait le grand écart entre, d'un côté, Angélique, marquise des Anges, dont il signa le générique, et on sait aussi que Michel Mercier fait partie du même trio que Audrey Hepburn, Daniel Darieux. Ce sont des anges là-haut qui me regardent tout le temps. Hi les filles, comment ça va? Et d'un autre côté, eh bien, il y a la collaboration de Michel Mann avec Jean-Yann, tout à fait différente, et des partitions absolument fantastiques pour Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, moyen d'en vouloir des sous, des films que même maintenant à la commission d'avance sur recette, dès qu'il verrait le scénario, il dirait « Ah, surtout on ne peut pas financer ça ». Bref, petit moment de vieux con, on va continuer sur la carrière de Daniel Gélin. On va écouter, alors dans notre série Iconoclaste, un extrait de la bande originale d'un film de Jean-Pierre Mocky, tourné en 1975. Alors je pense que Mocky a dû atteindre la centaine de films tournés tout au long de sa carrière, avec des réussites plus ou moins marquantes. L'une des caractéristiques de celui-là, mais il n'est pas seul dans son cas, c'est que Jean-Pierre Mocky lui-même, il jouait le rôle principal aux côtés de Myriam Mézières. Et puis surtout, l'autre caractéristique assez étonnante, indépendamment du fait que ce soit une adaptation d'un roman d'Horace McCoy, c'est que la musique de ce film rencontra un succès tout à fait inattendu. Alors je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose en l'étendant, mais je préfère la Dolanès Mélodie, c'est comme ça que ça s'appelle, puisque le personnage principal s'appelle Michel Dolan. Eh bien, elle rencontra un succès disco graphique sans doute bien supérieur à celui du film lui-même. Le film, il s'appelle « Alain Soy n'a pas de poche » et vous êtes bien dans 24 notes secondes. Vous l'avez reconnu, c'est que vous êtes vieux, tout simplement. Mais en 1975, à la date de sortie, l'album donc, de Dolanès Mélodie fut vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, en gros. Enfin, 3 millions d'exemplaires en 1975, c'est énorme. Et d'autant plus étonnant que le film lui-même ne rencontra pas un très très grand succès, mais ce morceau notamment en rencontra un. Et donc, dans ce film, on retrouve Daniel Gélin, parmi bien d'autres. Hein, c'était la bande à Mocky de l'époque. Il y a Francis Blanc, Jean Carmé, Michel Constantin, Michel Galabru, Jess Anne, Jean-Pierre Marielle. Vous vous rendez compte d'un générique pareil? Michel Serrault. Et il y a même, le croiriez-vous, Sylvia Christel, alias Emmanuel. On ne sait pas trop pourquoi. Mais ça, c'est Moki. Je pense que c'est une bonne définition de Moki. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà, donc c'était un petit hommage à Moki, auquel nous avons déjà consacré une émission de 24 secondes. Ce jour, il s'agit de Nenel Gela. On va accélérer un petit peu pour essayer de passer deux morceaux de musique avant de terminer cette émission. Et du coup, on va tout de suite enchaîner, j'en dirai deux mois après, avec un extrait de la bande originale d'Itinéraire d'un enfant gâté, un film qui mettait en vedette notre bébelle nationale, dans un film de Claude Lelouch. Qui dit Claude Lelouch dit. Eh bien oui, musique de Francis Lai. Allez hop, on y va dans 24 notes, seconde. Francis Lai, pur sucre, pour un extrait de la bande originale d'Itinéraire d'un enfant gâté, un film de 1988 signé Claude Lelouch. Nenel Gela nous a quittés le 29 novembre 2002. Il repose maintenant dans ce qu'on appelle le caveau familial, quelque part à Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, ai-je besoin de le préciser. Au terme d'une vie riche et d'une filmographie, théâtrographie, télétographie, etc., des plus fascinantes, et pour vous prouver, pour conclure, que l'homme est dans tous les bons coups, eh bien c'était le second projectionniste du cultissime La Cité de la Peur d'Alain Berberian, tourné en 1994. Et pour conclure, un petit extrait de la musique de Philippe Chani dans 24 notes, seconde. Thank you. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.